Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour, bonsoir, chères auditrices. Vous êtes sur Radio Syllabe, la radio sauvage des campus rennais. Vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes, l'émission littéraire qui va à la rencontre des faits et objets littéraires de tout horizon et poil. Chaque lundi soir, on vous propose de la chronique, des lectures ou encore des entretiens et des reportages. C'est-à-dire que nous, on ne s'enferme dans aucun format, pourvu que l'on vous mette à l'honneur une littérature vivante et vibrante, singulière et plurielle. Je me trouve présentement à Lestran, centre culturel de Binic, dans les Côtes d'Armor, où m'a accueilli l'équipe du Linceus Festival / Linceus Collectif, le second travaillant à organiser le premier depuis 2012 pour célébrer un théâtre contemporain et in situ, où auteurs et metteuses en scène sont accompagnés pour créer des œuvres situées sur un territoire, en contact direct avec ses habitants et habitantes. Je m'apprête à m'entretenir avec Antonin Fadinard, membre de la direction du collectif Linceus. Il a écrit et joué sur les éditions précédentes, et cette année, c'est en tant qu'acteur qu'on va le retrouver sur le spectacle suivant une ligne perpendiculaire à la route. Je rencontrerai également Sacha Todorov, auteur et metteur en scène de Anne Bonny, La dernière pirate, pièce qui a été écrite en octobre 2025 au cours d'une résidence au Tagarin, café-librairie des Tables-sur-Mer, en vue de représentation sur cette 12e édition du festival. Mais d'abord, une page d'agenda culturel.
Nietzsche a dit.
L'édito, tu écouteras, jeune padawan.
Le 1er juillet, de 18h à 20h30 au Crideve, causerie sur les discriminations linguistiques, la glottophobie. Ce temps d'échange et de réflexion collective sera suivi d'un karaoké faisant la part belle au répertoire d'Aya Nakamura. En effet, la causerie se propose de partir de la polémique médiatique qui avait frappé la chanteuse lors de son ouverture au JO. Un futur café-librairie des littératures de la jeunesse à Rennes ? C'est le projet de Léa qui a imaginé les gamineries, un lieu qu'elle souhaite coloré et confortable, pensé pour toutes les familles. Si Rennes est assez bien dotée en librairies généralistes et spécialisées, surtout dans son centre-ville et depuis peu dans certains de ses quartiers, nous ne connaissons pour le moment que la courte échelle qui propose un catalogue spécifiquement dédié à la jeunesse. Alors, si ça vous parle, un lieu de convivialité et de chaleur, un endroit qui crée de la rencontre et du partage, une librairie dédiée aux plus jeunes et aux familles qui les accompagnent, un espace cosy où l'on retrouve des valeurs de diversité et d'ouverture au monde dans les rayons et des boissons douces et chaudes au comptoir, alors vous pouvez retrouver la cagnotte participative des gamineries. Elle est publiée sur la plateforme de financement bretonne kengo.bzh. Et nous sommes là pour en parler. Du 24 au 28 juin, c'est le Linceus Festival. Porté par le collectif du même nom, il propose une 12e édition de spectacles célébrant les écritures théâtrales contemporaines et in situ. 21 professionnels du spectacle vivant occuperont le territoire communal de Binic et Tables-sur-Mer, proposant représentations théâtrales, mais aussi concerts, DJ sets, ateliers d'écriture et karaoké.
Sans plus ample transition, passons donc aux entretiens. On commence avec Antonin Fadinard. Rappelez-vous, il est membre de la direction du collectif Linceus. Il a participé de nombreuses fois au festival en tant qu'auteur et acteur, et cette année, c'est l'acteur qui sera sur le spectacle de Suivant une ligne perpendiculaire à la route, de Tristan Choisel, et mis en scène par Alexandra Sismondi.
En tant que membre de la direction du collectif Linceus, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu le projet artistique du collectif et du festival annuel que vous portez depuis 12 ans maintenant ?
Le collectif Linceus, il est né à l'occasion de la création du premier festival, donc le festival Linceus, en 2014. Et le but, c'était de faire se rencontrer les écritures contemporaines, théâtrales, et l'extérieur. Donc c'est les deux grands axes du collectif Linceus, c'est de c'est donc de proposer à des auteuristes de nous envoyer des textes ou de venir écrire sur place à Binic-et-Table, et ensuite de créer ces pièces de théâtre dehors, ou en tout cas dans des lieux qui ne sont pas dévolus à l'espace, à la représentation théâtrale, quoi.
Quand tu parles d'extérieur, dans votre programme, il est plusieurs fois question de théâtre in situ. Est-ce que tu pourrais un peu nous définir ce que c'est ?
C'est une très bonne question. Tous les ans, on se pose un peu la question de qu'est-ce que ça veut dire in situ, en quoi ça différencie de hors les murs ou de théâtre paysage. Enfin, la réponse, elle est un peu empirique. Chaque année, essayer de répondre à cette question, c'est-à-dire les auteuristes qui sont quand même au démarrage du processus et qui, pour celles et ceux qui viennent en résidence, ils ont un peu la consigne d'écrire pour la commune, pour Binic-et-Table-sur-Mer. Donc ça peut être pour un lieu, ça peut être pour des gens, ça peut être par rapport à une histoire ou une anecdote, voilà. Et donc, nous, ce qu'on entend par in situ, c'est faire du théâtre hors des théâtres et s'en servir un peu à tous les niveaux, au niveau de la dramaturgie, de l'écriture bien sûr, de la dramaturgie, de la scénographie, être pour eux et pour eux à tout ce que veut dire être hors des théâtres, les accidents comme les bonnes idées.
J'ai justement un petit extrait de Elsa Amsalem qu'on avait rencontré et qui nous parle de comment elle s'est retrouvée à se définir dans le théâtre paysage. Donc on va pouvoir écouter l'extrait et puis tu pourras compléter éventuellement.
Maintenant, je dis que je fais du théâtre paysage, chose que je racontais pas ou définissais pas comme ça avant. Je parlais plutôt de création in situ, ce qui est aussi vrai, mais là, je me suis dit que ça m'intéressait de m'affilier à cette famille artistique qui est celle du théâtre paysage et d'imaginer à partir d'une typologie de lieu ou de lieu un peu singulier, qu'est-ce qu'on peut raconter, qu'est-ce que les lieux nous racontent. Et il y a souvent un rapport aussi à la marche, à la déambulation, à l'exploration et de laisser la place aussi au lieu lui-même. Dans lequel on est plongé, quoi.
En vrai, c'est un peu la même chose. Je veux dire, en vrai, il y a vraiment quelque chose en commun. Il y avait vendredi et samedi dernier les états généraux du théâtre paysage qui étaient organisés à côté de Rennes, où on a été discuter justement. Ça frotte très fort. C'est juste que j'ai l'impression que le paysage... Ça intègre moins la parole des habitants et des habitantes, même s'ils disent qu'on viendrait aussi d'une certaine manière. Mais voilà, c'est plus ça que je dirais.
Vous savez, un peu le sentiment que j'avais en vous écoutant tous les deux. Et toi, il se trouve que tu es à la fois engagé dans le collectif et le festival en tant qu'acteur et auteur sur le festival. Est-ce que tu aurais une anecdote de résidence à partager ?
Oui, j'en ai plein. Mais,
il va falloir choisir une.
Ouais, la première qui me vient, en tout cas, enfin la première même, c'est un peu la première chronologique, c'est la toute première année. Donc j'étais auteur et metteur en scène, donc d'un spectacle que j'avais écrit pour cette occasion. Et donc on découvrait un peu, au moment de la résidence, ce que c'était que de travailler dehors, de travailler ici sur le territoire. Et donc on répétait cette pièce tous les jours, donc entre la falaise et la plage, y compris les jours où il faisait vraiment... où il pleuvait beaucoup. On avait mis des cirés, des bottes, et on hurlait comme ça dans le vent, comme souvent on le fait ici. Et il y a un promeneur, il y avait souvent des promeneurs qui s'arrêtaient, et il y en a un qui s'est arrêté sous son parapluie pendant toute la durée de la répétition. Et ça durait vraiment, enfin peut-être pas toute la durée, mais genre au moins 2 heures. Il restait au moins 2 heures à nous écouter, comme ça, nous reprendre. Et du coup, on a un peu discuté avec lui. Déjà, on s'est étonné qu'il reste aussi longtemps. Et on a discuté un peu avec lui et il nous a dit que ça l'avait intrigué, qu'il était resté, que ça lui donnait envie. Et c'est un peu, on a compris à ce moment-là toute la portée que ça allait pouvoir avoir que de jouer dehors, que de répéter dehors. Donc, puisque comme c'est de la création, on est au contact des gens aussi pendant un mois. Ce rapport-là casse les potentiels préjugés que peuvent avoir les gens sur le théâtre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont aguerris, qui savent très bien ce que c'est que le théâtre, qui ont l'habitude d'y aller, ou qui savent que ça n'impressionne pas, et d'autres que ça impressionne, qui pensent que c'est pas du tout pour eux. Ils ont parfois raison de le penser, d'ailleurs, je trouve. Mais là, le fait de nous voir répéter comme ça, un peu comme des misérables dans la boue, dans la vase, sous des conditions météo parfois rudes, et ça cassait justement cette distinction. Parfois qu'on peut imaginer, on dit on fait du théâtre. Comme c'est pas du théâtre de répertoire, c'est un peu du théâtre élitiste. Et là, du coup, ça a cassé ce rapport-là, quoi.
Ah bah, c'est esquive tout ce qui est fantasme devant une affiche d'un spectacle qui se jouera derrière des portes qui peuvent être parfois compliquées à franchir.
Exactement.
Et tu le disais, le festival se dédie aux écritures théâtrales contemporaines. Chaque édition, elle va se colorer d'un thème. Et cette année, vous avez choisi d'intituler l'édition, la 12e, « À corps perdu ». Est-ce que tu peux un peu nous expliquer les raisons de ce choix et comment ce thème s'est décliné dans la programmation de cette année?
Au début, quand on a commencé le festival et quand on a commencé à faire des appels à projets, le thème, on brainstormait sur un thème, on choisissait un thème et ensuite on lançait l'appel à projets. Depuis quelques années, on ne le fait plus, on le fait dans l'autre sens. La première année, parce qu'on avait pour des soucis de calendrier, c'est-à-dire qu'il fallait lancer l'appel à projets, on n'avait pas eu le temps de... Parce que c'est une année un peu en continu, quoi. Le festival se termine, le démontage du festival se termine et il faut lancer l'appel à projet.
Et au moment où on se parle, ça fait 3 jours que l'appel à projet pour 2027 est lancé.
Ouais, c'est ça, exactement. Et il se terminera le 12 juillet. Et là, on a encore plus empiété, on a encore plus remonté le calendrier. Mais bon, donc il y a eu une année comme ça où on n'avait pas eu le temps de brainstormer. Donc on s'est dit, bon, bah tant pis, soit on fait sans thème, soit on trouvera le thème après avoir choisi les projets. Et en fait, ce système nous a bien plu de choisir les projets qui nous plaisaient, qui nous paraissaient pertinents, qui s'agençaient bien les uns avec les autres pour former une programmation qui nous satisfaisait. Et ensuite, d'essayer de voir ce qui rassemblait ces 4 projets. Et donc, voilà, particulièrement cette année, on a mis un peu de temps à se dire, OK, on a 4 projets, c'est ceux-là, on est sûr d'eux. Maintenant, qu'est-ce qui les rassemble ? Donc voilà, ça a pris beaucoup de temps, mais c'est assez passionnant parce que c'est aussi le thème, c'est aussi ça irrigue aussi un petit peu l'année sur les à côté quand il y en a, voilà, que ce soit des ateliers ou des stages quand on arrive à en faire.
Et avec tout ça, tu nous as pas vraiment mis en mots sur comment Corps perdu s'est imposé. Tu nous as expliqué le processus, mais du coup, peut-être tu peux nous dire un petit peu ce qui rejaillit de ces 4 spectacles-là. Qui vous a donné envie de choisir ce thème-là ?
Le thème, ça a failli être en rapport avec le destin ou la fatalité. On n'arrivait pas bien à mettre ça. Enfin, c'était un peu grandiloquent, destin, fatalité, on ne savait pas trop comment le tourner. Mais les 4 textes ont quelque chose de cet ordre-là. L'ordre de la destinée, quoi, de quelque chose qui va au bout et qui ne va pas forcément au bout là où on croyait. C'est des gens qui avancent, ils semblent être promis à ce chemin-là et ils prennent un autre chemin. Quoi. Et à corps perdu, donc c'est l'expression, il y avait quelque chose d'organique aussi qui nous plaisait bien, quelque chose de difficilement moralisable. Enfin, on ne sait pas très bien si c'est positif, négatif. Et justement, ça, pour le spectacle vivant, pour le théâtre, c'est toujours, pour la littérature, pour tout même, pour l'art, c'est toujours passionnant de savoir, de pas savoir si c'est positif, négatif, bien, mal, à corps perdu.
Quelque part, échapper à cette question-là, quoi.
Voilà. Ouais.
J'ai noté cette citation qui est vraiment les tout premiers mots de l'édito. Il y a des trajectoires qui n'acceptent aucune déviation et d'autres qui ne sont que des déviations. Et j'avais l'impression que ça résonnait tout particulièrement avec la pièce dans laquelle tu vas jouer, qui est suivant une ligne perpendiculaire à la route. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des déviations dont il sera question dans le texte de Tristan Choisel, qui sera mise en scène par Alexandra Sismondi ?
C'est l'histoire d'un chauffeur routier qui arrête son camion sur une aire de stationnement parce que la nature, la campagne, lui a parlé et lui a dit « sauve-toi par ici ». Sauve-toi, suivant une ligne perpendiculaire à la route. Et il obéit à cette injonction, cette inspiration, un peu comme un satori dans la matinée. Il ferme le véhicule et il s'en va, il marche tout droit dans la campagne. Et sans avoir rien préparé, sans savoir trop où il va, ce qu'il fait, il se laisse porter par cette inspiration un peu impérieuse. On sent quand même qu'il est un peu... Il n'est pas en burn-out, mais voilà, il est un peu en décompensation.
C'est pas la grande
forme. Oui, voilà. On ne sait pas si c'est pas la grande forme, mais en tout cas, il est assez catégorique sur je ne veux plus de mon passé. Voilà. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'était avant, maintenant c'est fini. Peut-être même assez calmement, ça c'est la mise en scène qui tranche l'état de ce type. Mais voilà, et puis il rencontre du coup une série de personnages qui testent ou accompagnent justement ce nouveau parcours.
Incroyable, il n'y a pas que les Parisiens qui peuvent tout laisser tomber pour aller dans la nature. Et Est-ce que déjà vous aviez une certaine familiarité avec le travail de Tristan Choisel, que ce soit toi ou les autres comédiens comédiennes, ou c'est vraiment une première collaboration qui se fait
C'est une première collaboration. On ne connaissait pas Tristan Choisel. Il a répondu à l'appel à projet en envoyant un de ses textes, parce qu'on peut envoyer soit des projets d'écriture, soit des textes finis. Et il a envoyé ce texte qui nous a bien plu, qui au terme de comité de lecture houleux, mais c'est, qui sont passionnants justement. C'est imposé dans la programmation. Et c'est une découverte assez... comme toujours, toutes les découvertes de textes sont toujours intéressantes. Hein. Mais l'écriture de Tristan a quelque chose de particulièrement littéraire, notamment dans la description. La description des paysages, mais pas seulement, la description des états intérieurs, la description des actions, ce qui est très déroutant pour le théâtre, puisque c'est quelque chose qui normalement qu'on retrouve dans la littérature, dans le roman par exemple, et au théâtre on a tendance à... C'est ce qui pourrait être les didascalies, et donc c'est quelque chose qu'on ne dit pas et qu'on devrait faire. Mais là, il faut le prendre en charge. Et donc ça crée... Enfin, c'est ce qui nous a intéressé, nous. C'est un challenge, hein, on ne va pas se mentir, et Alexandra, la metteuse en scène, le mesure chaque jour, nous aussi d'ailleurs, les actrices. Mais ce qui nous a semblé intéressant, c'est justement de faire dialoguer ce qui est invisible et ce qui est là rendu, entre guillemets, visible par le texte, l'intérieur des pensées, l'intérieur des corps, et de le mettre comme, un peu comme de le superposer ou de le juxtaposer avec ce qui est extrêmement visible, qui est du théâtre en extérieur. C'est-à-dire qu'il y a déjà énormément de signes et de signifiants. On joue ça dans la cour d'un manoir, avec un peu une forêt autour, enfin beaucoup d'arbres. Il y a vraiment énormément de choses à voir. Et par-dessus ça, s'ajoute cette écriture très, très, très précise de Tristan. Et donc, notre pari est que ça va donner un spectacle un peu déroutant, mais qui ouvre un peu des portes sur... Enfin, on espère va ouvrir des portes sur notre façon de percevoir le parcours de ce bonhomme et des gens qu'il rencontre, bien sûr.
Et donc, tu disais, le texte a été reçu complet, donc il n'y a pas eu de résidence. Mais il y a un atelier d'écriture qui est prévu avec Tristan Choisel lors du festival. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Eh bien, je peux vous en dire pas plus que ça, parce que je ne sais pas ce que Tristan a prévu. Chaque année, on laisse la...
C'est une carte blanche.
Voilà, c'est une carte blanche aux auteuristes. Ils ont 2 heures au village Linceus, quoi, pendant lesquelles ils animent un atelier d'écriture. Ça peut être... l'autre autrice, par exemple, Joëlle Elmaleh, qui est une des autrices du festival, elle va plus travailler sur l'autofiction, par exemple, parce que c'est plus son domaine. Tristan, je ne sais pas sur quoi il va travailler, il ne nous l'a pas encore dit. Et vraiment, on laisse carte blanche à ces ateliers, qui sont des expériences toujours assez, un peu étranges, parce que toujours très intimes, je trouve, sur 2 heures. Voilà, c'est un peu... on a des inconnus qui se livre à cet exercice d'intimité sur 2 heures de temps.
Un groupe qui se constitue et qui va partager quelque chose de particulier. Ça sera sur inscription pour des soucis de jauge, on imagine, mais ça sera gratuit. Hein.
Oui, c'est gratuit. Ouais.
On espère que les auditeurs et auditrices en prennent bonne note. Avant de se quitter, peut-être que tu peux nous dire un petit mot sur Alice et le Trou des Merveilles, pièce que tu as créée à l'occasion de la 11e édition de Linceus et qui sera en tournée estivale le mois prochain.
Déjà, c'est un spectacle tout public qui a été écrit pour les enfants à partir de 7 ans. Pour les enfants et évidemment aussi pour les adultes.
Moi, ils ne viennent pas tout seuls.
Voilà, ils ne viennent pas tout seuls. Et puis ça nous passionnait de toute façon. Enfin, moi, je trouvais ça vraiment génial d'écrire un spectacle où on puisse un peu tout se permettre, entre guillemets. Et avec cette double lecture de la destinée qui est à la fois les enfants et les adultes. Et donc c'est une réécriture de Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll, une réécriture très très libre, dont le résumé est un peu celui-là. C'est une petite fille, donc Alice, ses deux parents se séparent et lui donnent à choisir chez qui elle veut aller habiter. Voilà, il faut qu'elle choisisse papa ou maman. Donc ça la met évidemment un peu en galère. Il se trouve qu'en plus, elle a perdu son doudou, qui est un lapin blanc. Donc elle cherche son doudou parmi le public. Et le doudou apparaît. Et ce doudou, qui s'appelle Virgile Blanc Lapin, Virgile du nom du guide des enfers dans Dante, vient ouvrir un trou dans l'air, comme ça, il fait un trou. Et ça ouvre une porte sur un monde imaginaire. Et il lui dit, voilà, en fait, on peut sortir de la réalité et se retrouver dans l'imaginaire.
Comme pour, ça, t'as pas à choisir entre papa et maman, juste on se casse.
Voilà, sauf que bon, il y a quand même deux, trois galères dans l'imaginaire. C'est que Virgile est poursuivi par un monstre qui s'appelle le Planning, qui veut régir le temps et le monde des enfants. Et donc Virgile, Blanc-Lapin et Alice doivent fuir le Planning et se retrouvent à ouvrir comme ça toute une succession de trous dans lesquels ils plongent et ils se retrouvent dans d'autres mondes. Et c'est des mondes qui entrent en résonance avec les différents univers et les différentes différents personnages de Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Et jusqu'à arriver au cul-de-sac où, évidemment, on s'en doute, comme c'est un récit initiatique, il va falloir apprendre à retourner dans la réalité.
Voilà, comme ça, la construction me rappelle beaucoup Émilie Joly, où pareil, il y a un monde par page du livre qu'on tourne jusqu'à ce qu'il faille le refermer.
Exactement. C'est pas une des références puisque je ne connais pas, mais la description que tu en fais colle assez bien.
Il faut écouter la version de 95. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment elle s'est créée cette pièce-ci, puisque du coup, est-ce qu'il y a eu une résidence d'écriture avec l'Inceus?
Eh ben oui, ben, donc moi je connais bien la commune, donc j'ai joué le jeu, j'ai écrit la pièce à l'automne 25-24 du coup, et j'ai cherché un nouveau lieu, parce que c'est toujours intéressant de trouver des nouveaux espaces, des nouveaux terrains de jeu. Et puis c'est un endroit qui m'avait un peu tapé dans l'œil, qui est un peu en bordure, derrière le terrain de pétanque, et pas loin d'une école aussi. Comme les écoles allaient venir au spectacle, c'était bien d'avoir au moins une des écoles qui puisse venir à pied. Et ça tombait très bien, puisqu'on s'est retrouvé dans un espace comme ça, sur une espèce de pré, avec un grand mur de propriété, un mur en pierre, qui entourait une propriété avec des très grands arbres. Et dedans, il y avait deux buttes de terre, et une sorte de trou au milieu qui permettait de tourner autour, de se cacher pour changer de costume, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages pour les trois actrices. Sauf que j'avais fait ce repérage en mars, quand je suis revenu pour la résidence, les services techniques de la ville, parce qu'ils utilisent cet endroit en fait pour bainer de la terre, pour mettre de la terre, ils avaient mis plein de terre partout. Donc il n'y avait plus deux buttes un peu fleuries, un peu en jachère, quoi. Mais il y avait une espèce de gros aplat de terre tout droit. Donc j'ai dit, ah bon, mais mince, je pensais que... Et en fait, comme ici, ils ont l'habitude de travailler avec nous et de nos demandes farfelues, ils ont accepté, ils ont dit, mais on peut... Et avec une pelleteuse, ils ont creusé un trou au milieu, ils ont creusé une tranchée, quoi, un trou vraiment à proprement parler, au milieu de ce gros amas de terre. Et c'est redevenu deux buts, bon, de terre. Je me disais, ça fait un peu garder tranchée, c'est dommage. Mais en fait, en un mois de résidence, l'herbe a commencé à pousser, puis les fleurs de colza, on s'est retrouvé envahi de fleurs jaunes immenses, voilà. Donc c'était très beau, très chouette et surtout très performatif, ce qui est peut-être une des premières choses qu'on demande à un espace dans lequel on va faire du théâtre.
Très bien. On peut du coup terminer en redonnant les dates et lieux des représentations de la pièce suivant une ligne perpendiculaire à la route, que je n'ai pas renotée, c'est une erreur. Donc je mettrai ça au montage. Et pour ce qui concerne Alice et le trou aux merveilles, ce sera le samedi 4 juillet à 17h au Centre culturel de l'Estran à Binic-Étape-sur-Mer, le 6 juillet au festival Les Scènes de Bréa à partir de 17h30, et enfin mercredi 8 juillet à 16h à la mairie de Plouran. Je n'oublie rien.
C'est bien ça.
Avant de t'abandonner, ou plutôt de te laisser retourner à travailler avec tes acteurs et actrices, pourrais-tu nous dire quelle musique on va écouter?
On va écouter Pyromane de Clara Isée, qui est une artiste que je trouve incroyable, qui s'est fait connaître avec Le Monde s'est dédoublé. Je ne sais pas si c'est le titre de la chanson, mais en tout cas, c'est ce qu'elle répète.
C'est ça.
Qui, moi, m'a bouleversé, continue de me bouleverser. Enfin, j'adore cette artiste. Et là, je trouvais que cette espèce d'appel à tout cramer qu'il y a dans Pyromane, ou à un peu à se frayer un chemin dans la nuit ou en faire son allié, résonnait quand même assez bien avec « À corps perdu » et ce qu'on en dit dans l'édito de l'Inceus.
Avant la pause musicale promise, voici quelques informations promises sur les représentations de « Suivant une ligne perpendiculaire à la route ». Pour rappel, il s'agit d'un texte de Tristan Choisel qui sera mis en scène par Alexandra Sismondi. À la distribution, vous aurez Antonin Fadinard qui s'est entretenu avec nous à l'instant, ainsi que Pauline Chevillier et Pierre Giaferi. Voici les dates. Le 25 juin à 19h, le 26 juin à 21h, le 27 juin à 18h30, et enfin le dimanche 28 juin à 15h. Ces quatre représentations auront lieu au niveau de la salle des loisirs.
Que vienne la nuit, que vienne l'heure où le soleil gémit, que que vienne la nuit et que demeurent les sages endormis. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Tu me dis j'ai peur, la décennie à l'odeur de l'incendie. À toi qui ouvre ton cœur cette nuit, je te la souhaite infinie. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Sous nos tables de nuit sont rangés des litres d'essence, pyromane de l'ennui, il est temps de cramer le silence. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Quand retentit minuit, brûlons nos lits et entrons dans la danse. Génération qu'on oublie, il est temps de sortir de l'errance. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Le feu nous éblouit, car cette nuit notre vision est grande. Sens-tu venir la folie, elle nous saisit et l'ancien monde tremble. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer, laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Vienne la nuit, que vienne l'heure où le soleil gémit. Que vienne la nuit et que demeurent les sages endormis.
C'était Pyromane de Clara Isé. Vous êtes sur Syllabe et vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes, l'émission littéraire du lundi soir. Aujourd'hui, on découvre le festival de théâtre in situ, l'Inceus. On s'est déjà entretenu avec Antonin Fadinard. À présent, on va discuter avec Sacha Todorov. Auteur et metteur en scène sur ce festival, il est également membre du collectif du Nouveau Théâtre Populaire, où il est également comédien et pianiste. Et on peut voir dans son travail un certain attachement à des figures de rébellion, ou en tout cas de liberté. Sur cette 12e édition du festival L'Inceus, c'est en tant qu'auteur et metteur en scène qu'il a proposé la pièce Anne Bonny, la dernière pirate. Pièce pour laquelle il a réalisé une résidence au Tagarin, café-librairie de Binic Étape-sur-Mer, en automne 2025. Allez, trêve de présentation, on passe à l'entretien.
Alors, peux-tu déjà commencer par nous raconter comment tu as rencontré la figure d'Anne Bonny et comment elle s'est imposée lors de l'écriture de la pièce ?
C'est un mélange entre des personnes qui m'en ont parlé une première fois, qui m'ont dit « Tiens, pourquoi tu n'écrirais pas une pièce sur l'histoire d'Anne Bonny ?» parce qu'ils savaient que j'avais un intérêt, moi, pour l'histoire des luttes d'une manière générale. Et ensuite, des lectures sur la piraterie. Donc, j'étais très marqué par les travaux d'un historien qui s'appelle Marcus Rediker, qui est un historien américain, qui est le grand spécialiste de la piraterie au XVIIIe siècle et du monde atlantique en général, et qui resitue la piraterie dans une perspective plus large des luttes sociales, et c'est beaucoup ça qui m'a intéressé. Et d'autre part, il y a une source incroyable quand on s'intéresse à la piraterie, c'est un livre qui s'appelle « L'histoire générale des plus fameux pirates », qui a été publié pour la première fois vers 1724, ensuite republié en 1726, qui est d'un mystérieux auteur anonyme qui s'appelle le Capitaine Johnson. Enfin, il y a un nom, mais on ne sait pas qui c'est. Il y a des hypothèses suivant lesquelles ce serait en fait un pseudonyme de Daniel Defoe, mais ce n'est pas du tout une œuvre romanesque, c'est au contraire vraiment un truc très documentaire. Tous les historiens de la piraterie qui sont passés après, en le croisant avec d'autres sources, ont vérifié que c'était une source d'une qualité vraiment exceptionnelle. Et c'est une série de portraits de pirates, dont deux chapitres consacrés à Anne Bonny et Mary Read. Donc c'est là que je me suis plongé dans les détails concernant leur existence.
Bah justement, avant l'entretien, je t'écrivais que justement j'avais lu Marie Tempête d'Alain Surget dans mes jeunes années, qui cite cette même source première. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait choisir Anne Bonny, puisque Alain Surget, au contraire, se centre sur la figure de Mary Read et il y a Anne Bonny qui apparaît au bout d'une, allez, 200-300 pages.
Ah, c'est une bonne question, mais je crois que ce qui m'a plu dans Anne Bonny, c'est son parcours de traître à sa classe. C'est-à-dire que Mary Read, on sait que c'est plutôt une femme du peuple qui se déguise en soldat au bout d'un moment par amour, pour suivre son conjoint, et qui ensuite essaye de mener une vie autonome comme ça. Et Anne Bonny, c'est une fille de planteur. Son père fait la traversée, il vient d'Irlande et il s'installe dans ce qui n'est pas encore les États-Unis, donc la Nouvelle-Angleterre à l'époque. Et en fait, il a des plantations avec des esclaves. Et du coup, Anne Cormac à l'époque avait un destin tout tracé de fille de planteur plutôt riche et en pleine bourgeoisie, quoi. Et j'ai trouvé intéressant que, à la base, par rébellion personnelle, elle quitte ce milieu-là favorisé et qu'elle découvre du coup l'envers du décor, qu'elle rejoigne. Et ensuite, voilà, elle rejoint la piraterie et ça croise aussi les luttes anti-esclavagistes, parce que, en fait, c'est ce que j'ai beaucoup voulu raconter dans cette pièce, quoi, c'est que la piraterie et le commerce triangulaire sont les deux facettes d'une même pièce, quoi. S'il y a autant de piraterie, c'est parce qu'il y a autant de richesses qui circulent. Et donc, je trouvais ce parcours plus singulier, plus inattendu, plus parlant de nos jours, de comment rompre avec un ordre, même si on est en son sein. C'est pour ça que j'ai voulu mettre en valeur ce personnage-là.
On a déjà eu quelques indices, mais est-ce que tu pourrais recontextualiser l'écriture de cette pièce et la façon dont tu vas aborder sa mise en scène, hein, vis-à-vis du reste de ta carrière ? Je pense par exemple à ta thèse, le théâtre, la rue, la ZAD, usage contemporain du carnaval, performance théâtrale et militante. Il me semble qu'il y a pas mal de notions compatibles avec la flibusterie. Et puis il y a également ton engagement au Nouveau Théâtre Populaire qui organise, je cite, nos spectacles dans un cadre convivial, familial et toujours en plein air, comme ça va être le cas pour la pièce que tu proposes au Festival Lynceus.
Pour te répondre en sens inverse, c'est évident que le Festival du Nouveau Théâtre Populaire et le Festival Lynceus sont des festivals cousins, on se connaît depuis longtemps, il y a des passages de comédiennes, comédiens, metteurs en scène d'une année à l'autre depuis longtemps, et je crois qu'on a revendiqué même de faire partie d'un mouvement commun. On s'est même, avec d'autres festivals, à un moment, on a créé une fédération, ce qu'on a appelé la Fédération des festivals de théâtre de proximité. Parce qu'on avait l'impression qu'on était bien 10-15 festivals, donc avec les troupes à chaque fois, donc ça commence à faire pas mal de monde, sur la France entière, qui avait fait ce même geste à la fin des années 2000 ou au début des années 2010, de quitter les grandes villes et d'aller faire du théâtre en plein air, d'essayer d'aller à la rencontre des spectateurs ou des spectatrices,
oui,
ou de gens qui n'allaient pas au théâtre,
c'est quitter
les réseaux, quoi. C'est oui, et s'installer soit dans des maisons, soit dans des lieux qui ne sont en général pas faits pour ça. Pour remettre le théâtre au centre de la cité, quoi. Et souvent, dans des démarches qu'on pourrait dire pirates, sans forcer le trait, c'est-à-dire en tout cas autonomes, sans argent, de manière très démocratique. C'est en général, c'est des collectifs qui se sont lancés dans ces choses-là et qui ont très à cœur de pratiquer la démocratie directe, la rotation au poste de direction et tout ça. Donc ça, pour toutes ces raisons-là, effectivement, je crois que en écrivant cette pièce, ça m'a aussi fait repenser à quel était mon état d'esprit, notre état d'esprit quand on avait 20 ans et qu'on s'est dit, bon, allez, on va partir, on va aller à un endroit où il n'y a jamais eu de théâtre, on va essayer de faire quelque chose et on va voir si on arrive à tenir dans le temps. L'Inceus prépare sa 12e édition, le NTP sa 18e, donc c'est des aventures qui durent quand même. Et moi, effectivement, et je pense que c'est dans ce sens-là, c'est la pratique du collectif en milieu théâtral qui m'a fait m'intéresser à d'autres pratiques collectives, à l'histoire des luttes plus généralement, les interactions entre histoire des luttes et performance. Ce que je peux dire par rapport à ma thèse, c'est qu'on peut dire que la piraterie au XVIIIe siècle qui s'installe comme ça dans les Caraïbes, c'est une sorte de ZAD avant la lettre. C'est-à-dire que c'est vraiment comme le sont les maquis ou les forêts impénétrables à d'autres époques. C'est-à-dire que c'est des lieux qui sont incontrôlables par l'Empire et où donc tous les réfugiés de l'Empire, que ce soit les réfugiés religieux qui fuient l'Angleterre, les esclaves en fuite, les femmes donc quand elles sont en rupture avec leur famille, tout le monde fuit dans ces zones de non-droit, en tout cas, c'est pas le droit impérial qui s'applique, et ça devient progressivement des chaudrons, des lieux où s'élaborent des résistances et où s'élaborent des contre-sociétés. Et c'est ça que j'ai beaucoup voulu raconter avec cette pièce sur Anne Bonny, c'est que les pirates sont pas, j'allais dire, sont pas justes, mais sont même pas du tout forcément obsédés par la quête du trésor, comme on le voit beaucoup dans les films ou les séries, c'est avant tout une quête déjà d'échapper à un monde violent. Enfin, les marins anglais, parce que la marine à l'époque est massivement anglaise, bah, c'est la pire vie possible du prolétariat, de gens qui sont payés une fois tous les 3 ans, qui sont fouettés, qui sont malades, qui sont en fait parfois pas payés du tout. Et puis, en fait, on préfère qu'ils meurent en route et les remplacer, parce que comme ça évite d'avoir à les payer. Enfin, les gens fuient cette soumission à des travaux qui sont extrêmement durs, c'est avant tout ça la piraterie. Et puis, ils élaborent, et ça le livre, les travaux de Marcus Redeker le rendent très bien, ils élaborent des sociétés alternatives, notamment marquées par la démocratie directe, l'élection du capitaine et le fait de s'appeler République, enfin à Nassau vers 1705, comme ça, donc au cœur des Bahamas, donc parmi les centaines d'îles des Caraïbes, c'est cet endroit très peu contrôlable. Il y a une première génération de pirates, donc les plus célèbres, c'est Barbe Noire, bien sûr, qu'on croise dans le spectacle, mais aussi Hornigold, bien d'autres, créent une république, enfin à une époque où les États-Unis ne sont pas encore une république, le mot fait scandale en Europe quand il est évoqué par les Lumières, enfin c'est vraiment des avant-coureurs aux avant-postes de dire que tout le monde doit participer à la chose politique. Et c'est ça que j'ai voulu remettre en avant.
Je rigolais intérieurement à l'idée que les Anglais ont réussi à faire en sorte que les pirates soient les escrocs accaparés par l'or, alors qu'en tant qu'opère coloniale, franchement...
Tout à fait. Non, l'image qu'on donne des pirates ressemble plus à celle des esclavagistes, en fait, à l'époque. C'est-à-dire des gens qui arrivent, qui font main basse sur toutes les richesses d'un territoire, que ce soit sur la côte africaine ou dans ce qu'on appelle le Nouveau Monde, et qui veulent le reprendre chez eux. Il y a des cas... Moi, j'étais frappé aussi d'apprendre... Il y a des cas où les pirates font main basse sur les cargaisons, notamment d'esclaves, et les revendent. Mais il y a aussi beaucoup de cas où ils disent, non seulement aux matelots, mais aussi aux esclaves, est-ce que vous voulez nous rejoindre, quoi? Et en fait, c'est massif. C'est presque 40% des équipages pirates, c'est des esclaves en fuite.
J'aimerais à présent qu'on parle un petit peu de la résidence artistique que tu as passée l'an dernier au Tagarin, à Étape-sur-Mer, pour préparer cette pièce. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est déroulé, que ce soit du côté résident ou du côté artiste?
Ça s'est très bien déroulé. J'étais très bien accueilli au Tagarin et c'était super de pouvoir commencer à m'imprégner de l'atmosphère des lieux. Après, moi, comme vous l'avez compris, je ne travaille pas sur la piraterie de Binic, même si ça a été l'occasion de me rendre compte qu'il y avait aussi une tradition et une mémoire qui se transmettait à ce niveau-là. En revanche, en fait, ça a surtout été l'occasion d'une rencontre formidable avec une association de Binic qui s'appelle Grain de Pirate. Et en fait, le projet se conçoit maintenant main dans la main avec cette association. Et je trouve ça très, très significatif et très sympathique qu'il y ait des gens dont en plus le métier n'est pas le théâtre ou tout ça, mais qui se démènent pour faire vivre un festival de pirates. Bon, ça en dit long sur quel imaginaire la piraterie charrie encore pour nous aujourd'hui. Et donc, très généreusement, l'association nous prête des costumes, des décors, des accessoires. Et ça, j'ai pu profiter passer une semaine là, cet automne pour faire les premières rencontres, commencer à aller voir leur stock, voir ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, et ainsi de suite. Et puis se rendre compte qu'on avait quand même un imaginaire commun, quoi. Et ça, c'est très agréable, je me rends compte, en travaillant sur la piraterie, parce que tout le monde a une petite idée sur les pirates, tout le monde a un petit point d'accroche, et c'est souvent le moyen de faire du lien. Et j'espère que vraiment ce spectacle pourrait être l'occasion comme ça d'amener des gens qui ne connaissent pas ce festival ou qui s'intéressent peu, se disent que le théâtre ne les concerne pas ou ne les intéresse pas, que ce spectacle-là puisse leur parler avec cette thématique qui est à la fois familière à tout le monde et en même temps, je pense qu'on montre un visage de la piraterie un petit peu différent que ce qu'on voit en temps normal, quoi.
Et est-ce que c'est à l'occasion de cette résidence que le lieu de représentation a été trouvé ou c'est venu dans un second temps ?
Non, c'est à l'occasion de cette résidence, et ça part d'une considération très technique, c'est qu'on m'a montré plusieurs lieux avec lesquels le festival Linceus avait déjà travaillé, et l'un d'eux est à côté du stock de décors et d'accessoires de grains de pirates. Et en plus, c'est l'un... Enfin, ils l'appellent la cour d'honneur de Linceus. Enfin, c'est l'un des plus beaux lieux où ils travaillent. Mais c'est vrai que c'est le parking juste avant l'ancienne école de voile, quoi, qu'on appelle la Row News. Et c'est vrai que c'est plat, c'est grand, c'est calme. Et il y a une vue très dégagée sur la mer. Enfin, de tous les points de vue, c'est assez idéal. Et en plus, ça me permet de profiter de tous ces accessoires et costumes sans avoir à faire un déménagement à chaque fois. Donc ça s'est assez vite imposé.
Est-ce que tu peux aussi un peu nous parler du modèle économique de la résidence ? Qu'est-ce qui fait que c'était une bonne résidence artistique ? Je pense à ça parce que j'ai pu voir passer sur les réseaux sociaux quelques auteurs, autrices pointer du doigt qu'une résidence artistique où il y a un atelier tous les jours avec des scolaires, bon, c'est très cool pour les scolaires, mais est-ce que ça permet vraiment de créer ? Pas tant. Voilà, est-ce que du coup, c'est une résidence qui a été pour toi propice à la création et qu'est-ce qui, selon toi, a fait que ça l'était, hein ?
Alors moi, j'ai pas eu d'atelier avec les scolaires là-dessus. J'étais concentré pendant une semaine sur le travail. J'ai pu, au Tagarin, faire une rencontre avec les spectatrices et spectateurs qui étaient intéressés à ce stade du projet. Et ça, c'était assez profitable de pouvoir présenter là où j'en étais et à la fois répondre à leurs questions, me poser moi-même des questions qui venaient des interrogations qui m'étaient faites. Et en même temps, je pense que c'est surtout la qualité de l'accueil et de la concentration. Moi, j'avais déjà commencé à travailler sur Anne Bonny avant, mais c'est tout d'un coup, on a un grand temps comme ça de lecture, d'écriture. Moi, je travaille beaucoup sur plan, quoi. Enfin, j'avais besoin d'un plan détaillé en 5 actes. Enfin, c'est une grande fresque comme ça qui passe par plusieurs lieux et plusieurs époques. Et j'ai pas tout écrit en une semaine, bien sûr, mais quand je suis parti d'ici, j'avais le plan détaillé. Et j'avais l'impression d'avoir eu le temps de prendre les grandes décisions qui allaient déterminer la forme qu'a pris la pièce. Il y a un mot qu'on attribue à Racine de « ma pièce est faite, je n'ai plus qu'à l'écrire ». Et c'est vrai que quand on... Enfin, moi, voilà, quand j'avais... Je suis passé par une phase de documentation assez importante sur l'histoire de la piraterie avec Reddy Kerr, avec le capitaine Johnson et tout ça. Et ça, j'ai pu m'y donner à cœur joie, enfin de me dire, en fait, on peut. Enfin, c'est difficile le reste du temps quand on est pris dans sa vie quotidienne, dans d'autres projets et ainsi de suite, de se dire, bon, là, en fait, pendant. Je vais consacrer 2 heures juste à lire un livre d'histoire et je ne sais pas si ça va me servir, mais il faut prendre le temps de ce détail. Et voilà, un départ en résidence, ça permet ça. Ça permet de s'octroyer le luxe de lire. Et moi, j'ai pu arriver à un plan assez précis. Donc, je suis reparti serein. Et effectivement, dans le mois qui a fini, j'ai fait une première version. Après, moi, je crois pas du tout à... Je ne crois pas du tout à l'œuvre idéale et terminée, donc je suis toujours prêt à intégrer des modifications. Je suis très à l'écoute de ce qui naît du passage au plateau aussi. Et maintenant encore, là, on attaque la 4e semaine de répétition et on est encore à se dire « Ah bah en fait, là, cette réplique, on n'en a pas besoin parce que tu le fais déjà, donc ce n'est pas la peine de dire que tu le fais en plus. » Ou au contraire, c'est « Ah, là, on aurait besoin d'une phrase en plus pour faciliter une transition. » Et moi, j'aime beaucoup ce travail de couture avec le plateau, quoi, que plus le texte est adapté à l'important, c'est que l'événement théâtral soit le meilleur possible. Quoi. Donc s'il faut faire des petits réajustements dans le texte jusqu'à la fin, moi ça ne me dérange pas du tout.
En parlant du travail au plateau, donc c'est 6 actrices qui vont jouer cette pièce. Le résumé de la pièce au programme laisse à penser qu'Anne Bonny serait le seul personnage féminin, alors que la distribution a l'air d'avoir une répartition genrée quasi à l'opposé. Est-ce que c'est un indice de choix de mise en scène ?
Oui, bah, ça s'est construit en concertation avec les autres metteuses en scène du festival, donc je ne suis pas seul responsable de cette décision, mais c'est vrai que quand il s'est dessiné la possibilité que sur les... Déjà que j'ai 6 personnes au plateau, j'ai sauté de joie, enfin je l'avais annoncé tout de suite, j'aurais besoin de monde, c'est une fresque, et puis bon, quand on a un équipage pirate et un équipage qui se fait aborder, si on le fait à un contre un, c'est un peu maigre, quoi. Donc fallait au moins...
que lorsqu'il y a l'appel à projet pour l'INCEUS, on demande aux metteurs et metteuses en scène de prévoir plutôt 3-4 personnages.
C'est ça. En tout cas, que ça tienne à 3-4 acteurs, actrices. Donc, ils ont poussé les murs pour moi. Par ailleurs, mais j'ai 20 personnages. c'est pas du tout... Un acteur, un rôle, ils passent leur temps à changer de costume pour incarner tout ce paysage, toute cette galerie de personnes qui vivaient à cette époque. Quand c'est confirmé la possibilité qu'il y ait beaucoup de filles, qu'il y ait une majorité de filles, je trouvais ça super justement pour pas redoubler le geste d'exclusion des femmes qui faisait que dans cette époque les femmes étaient ultra minoritaires. Qu'on connaît, si on connaît autant Marie Reed et Anne Bonny, c'est avant tout parce qu'elles sont à peu près les seules, quoi. Et en Occident, en Chine, il y en a d'autres. Enfin, au XVIe siècle, il y en a d'autres. Enfin, mais sur cette période spécifique des Caraïbes, avec cette dimension démocratique, c'est ultra minoritaire. Et voilà, j'ai pas envie de redoubler cette minorité en me disant bon bah du coup il y aura que 2 filles et tout le reste, ce sera des garçons. Je trouve que c'est plutôt une revanche et une façon de prendre de la distance avec ces rôles genrés qui fait plutôt du bien, quoi. De se dire que tout le monde peut tout jouer, que donc c'est très bien que autant de filles puissent jouer des pirates, puissent jouer Barbe Noire, Hornigold, César et ainsi de suite.
Et toi qui as travaillé sur le carnaval, est-ce qu'il y avait un peu cette envie de rejouer cette rébellion ultime du travestissement
Peut-être, je ne me le suis pas formulé en ces termes. Moi, d'une manière générale, je pense qu'il y a une porosité entre le statut du carnaval et le statut que peut avoir le théâtre, c'est-à-dire d'être un moment de... déjà un moment festif, un moment agréable, un moment de fête, mais aussi un moment de remise en question des dominations sociales, d'inversion des rôles entre dominant et dominé. Après, ça fait couler beaucoup d'encre. Est-ce qu'au fond, du coup, le carnaval, c'est pas juste une soupape qui fait qu'ensuite le retour à l'ordre est encore pire? Et ou est-ce qu'au contraire, le carnaval est une sorte de répétition révolutionnaire qui permet progressivement de rendre, de diffuser ses idées, de donner le goût de ce monde alternatif? Et c'est plutôt ça qu'on essaye de faire. C'est plutôt d'essayer de trouver ce moment carnavalesque au sens de « et si, en fait, nous aussi, encore maintenant, encore aujourd'hui, est-ce que c'est possible de prendre des initiatives, de fonctionner en collectif, de renouer avec des pratiques vraiment démocratiques ?» Et ainsi de suite. C'est plutôt pour donner un goût de revenez-y, que ça donne envie à tout le monde de monter au plateau, voire de monter... sur des bateaux.
Eh bien, j'espère que ça aura donné envie aux personnes qui nous écoutent, car on arrive déjà à la fin du temps imparti. Est-ce qu'avant de se dire au revoir, Sacha, tu pourrais nous introduire à la musique que tu nous as choisie ?
Oui, tout à fait. J'ai beaucoup écouté de musique de marin en préparant cette pièce. Ça faisait partie des choses que je faisais quand j'étais en résidence d'écriture ici. Et j'ai découvert un disque donc d'un groupe anglais qui s'appelle les Fisherman Friends, donc qui est un groupe encore vivant de chanteurs amateurs à la base, et cette dimension-là me plaisait bien aussi, de pêcheurs du sud de l'Angleterre qui reprenaient des chants de marins du 19e siècle. Et celui-là entre tous, après vérification, je me suis rendu compte qu'en plus, c'était sans doute une mélodie irlandaise plutôt 18e. Donc vraiment, il y avait de bonnes chances qu'il ait pu circuler déjà à l'époque de Barbe Noire ou d'Anne Bonny sur les bateaux des Caraïbes. Et voilà, quand on l'a entendu une fois, il vous trotte dans la tête toute la journée.
Alors, je n'ai pas trouvé les deux versions assez qualitatives pour la radio du groupe original, mais du coup, on aura un morceau de la bande-son du film qui reprend cette histoire-là.
Tout à fait, Fisherman Friends.
What shall we do with a drunken sailor?
What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Her lie in the morning. Hooray!
Up she rises.
Hooray!
Up she rises.
Hooray!
Up she rises.
Her lie in the morning.
Put him in the scuppers with a lee rail under.
Put him in the scuppers with a lee rail under. Put him in the scuppers with a lee rail under. Her lie in the morning. Hooray!
Up she rises. Put him in a brig until he's sober.
Put him in a brig until he's sober. Put him in a brig until he's sober. Her lie in the morning. Hooray!
Up she rises.
Hooray!
Up she rises.
Hooray!
Up she rises.
Her lie in the morning.
Put him in a whaler and make him pull her.
Put him in a whaler and make him pull her. Put him in a whaler and make him pull her. Her lie in the morning. Hooray!
Up she rises.
Hooray!
Up she rises.
Hooray!
Up she rises.
Her lie in the morning.
Shave his belly with a rusty razor.
Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Her lie in the morning. Hooray!
Up she rises.
Hooray!
Up she rises.
Hooray!
Up she rises.
Her lie in the morning.
Put him in a bunk with a captain's daughter.
Put him in a bunk with a captain's daughter. Put him in a bunk with a captain's daughter. Her lie in the morning. Hooray!
Up she rises.
Hooray!
Up she rises.
Hooray!
Up she rises.
Her lie in the morning.
Have you seen the captain's daughter?
Have you seen the captain's daughter? Have you seen the captain's daughter? Her lie in the morning. Hooray!
Up she rises.
C'était l'incontournable What Shall We Do with the Drunken Sailor. Cette version appartient à la bande-son du film The Fisherman Friends, un film de Chris Foggins, et qui nous a été proposé par Sacha Todorov. Vous êtes sur Scilab et vous écoutez la fin de l'émission de J'ai craché sur vos ondes, consacrée au festival Lynceus. Avec Antonin Fadinard et Sacha Todorov, on a pu parler de Suivant une ligne perpendiculaire à la route, ainsi que de la pièce Anne Bonny, la dernière pirate, mais il ne s'agit là que d'une petite partie de la programmation du festival Lynceus. Il y a également Garçon Blockhouse, d'un texte de Joé Emalet qui est mis en scène et interprété par Sébastien de Pommier, ainsi que L'Animalière, d'après un texte de Mélissa Bertrand et mise en scène par Clémence Weil. La distribution est, elle, assurée par Clémence Boissé, Leslie Bouchet, Virgile Leclerc et Garance Robert de Massy. Ces quatre pièces sont jouées tous les jours, du jeudi 25 au dimanche 28 juin. Il y a également des ateliers d'écriture, des temps d'échange professionnels, des concerts, DJ sets, bref, de quoi bien s'amuser. N'oubliez pas surtout le karaoké, le dernier jour du micro qui clôturera le festival le dimanche 28. La semaine prochaine, pas de contenu inédit, une petite rediffusion dont on vous laisse la surprise, parce que bon, on a besoin d'un peu de vacances, nous, à gérer cracher sur vos ondes. Bonne continuation sur les ondes de Scilab, et à la prochaine.